Bien, mes chers collègues, nous allons commencer ce conseil municipal bien chargé. Et donc, juste avant de débuter nos travaux, nous allons désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Madame Roujas, des oppositions, des abstentions? Merci, Madame Roujas, veuillez faire l'appel, s'il vous plaît.
Monsieur Yann Dubosc.
Présent.
Monsieur Ludovic Boutillier.
Présent.
Madame Thion Chauvan.
Elle va arriver.
Retard. Madame Amandine Roujas, présente. Alain Chilipski.
Présent.
Nathalie Nutin.
Elle est malade. Elle est malade.
Malade?
Non.
Serge Titizac.
Il est en réunion à Tavarne.
D'accord. Est-ce qu'il y a un pouvoir?
Il arrive.
D'accord. Brigitte Jarot-Tirode.
Présente.
Loïc Masson.
Présente.
Régine Borliès.
Présente.
Marc Nouguerol.
Présent.
Élise Fongchan.
Présent.
Biangani Barroz.
Présent.
Karine Plaza.
Bloqué par le RER.
Franco Panigada.
Présent.
Sokunte Ate. Présent. Franck Lemilour.
Présent.
Nicole Mazina.
Bloqué par le RER.
David Valença.
Présent.
Valérie Vongchan.
Présent.
Hervé Goguet.
Présent.
Zaya Goumi.
Présent.
Édouard Leroy.
Présent.
La vie âme.
Présent.
Baptiste Fabry.
Présent.
André Aguerre.
Présent.
Nathalie Joie.
Présent.
Chantal Brunel.
Présent.
Jacques Canal.
Présent.
Martine Candotil.
Présent.
Abdelila Ifdi.
Présent.
Didier Carré.
Présent.
Khalida Chérifi. Eduardo Riancipel. Et Claire Travers.
Elle
a sur peut-être le pouvoir, on va voir.
Elle est partie, elle a tout.
Elle a le pouvoir d'Eduardo? D'accord.
Bien. Alors Claire, est-ce que tu as le pouvoir?
Oui, je l'ai.
Oui, ok.
Ok, et Claire Travers.
C'est noté. Alors, juste avant de commencer, je voulais saluer la présence exceptionnelle de nos jeunes du Conseil municipal des enfants, hein, donc sont présents ce soir pour quelques questions et quelques débats pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et donc, ils ont mis tous leur écharpe bleu, blanc, rouge. Donc ça c'est parfait. Donc ça fera partie des actes pédagogiques qui sont liés à ce Conseil municipal des enfants. Donc on peut tous et toutes leur souhaiter la bienvenue ce soir.
Hein?
Et donc comme ça il y aura une interrogation à la fin pour voir effectivement si vous avez bien tout suivi, hein? D'accord. Alors
monsieur le maire, s'il vous plaît.
Oui, monsieur Carré,
est-ce qu'il est possible en tout début de conseil municipal déjà de faire constat que tu es présent et donc bien important, et c'est un sujet en fait sur lequel je pense qu'il faut qu'on ait quand même une explication, parce que par rapport au précédent conseil municipal, entre-temps, des informations ont circulé par la presse. Je fais toujours très attention à ce qui circule par la presse et ce qui circule aussi sur les réseaux sociaux.
Et tu as raison.
Et je voudrais quand même effectivement bien savoir ce qu'il en est, de comment on peut être sur certaines activités en bonne santé ou en assez bonne santé, et aussi sur d'autres activités en arrêt maladie. Et je parle pas du cumul des mandats, parce que ça, je pense que c'est une bonne chose dans une fonction publique, municipale.
Je vais répondre tout de suite effectivement à cette question-là, et pour préciser un certain nombre de choses. Donc, comme je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement il y a eu un certain nombre de choses racontées et sur lesquelles je vais être amené à revenir, mais cette fois-ci sur le plan judiciaire, clairement. Donc, toutes celles et ceux qui se sont empressés de s'engouffrer dans cette espèce de fausse brèche vont, à mon avis, le payer très chèrement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme des millions de Français, on a découvert un diabète, et donc le diabète se procure également de l'attention. Comme c'est des choses que je n'avais jamais eues dans ma vie. Donc, j'ai vu avec mon employeur la chambre des métiers, effectivement, de prendre le temps nécessaire à pouvoir trouver le traitement adéquat. D'accord? Donc, Ensuite, il y a eu cette espèce de campagne absolument ahurissante venant du 93, et comme par hasard, immédiatement après, le président Toulmé, qui est à l'origine de cette affaire-là, s'est excusé longuement sur mon Facebook pour dire qu'il ne comprenait pas cette campagne de presse contre moi. Alors, bien évidemment, et ça, c'est encore visible sur mon Facebook, donc chacun peut le voir. Et l'élément privé que j'ai dans ma relation professionnelle avec le président Toulmé ne concerne que le président Toulmé et moi-même. D'ailleurs, on va pas tarder à communiquer dans la presse, lui et moi, sur cette situation-là. D'accord ? Donc, aujourd'hui, le diabète et la tension sont des éléments qui sont soignés. Et je pense qu'effectivement autour de la table, il y a certaines personnes effectivement qui ont la même pathologie que moi. C'est ce qu'on appelle une maladie invisible. Et cette maladie invisible aujourd'hui handicap dans le cadre effectivement des transports que je pouvais avoir sur Bobigny, m'handicap effectivement sur un certain nombre de choses. Mais ma présence sur le mandat que j'ai à la mairie, étant sur ma ville, parce que contrairement à d'autres, moi j'habite à Bussy, donc j'ai pas de transport effectivement pour me déplacer sur la commune, et donc ne m'empêche pas d'avoir l'un ou l'autre. Donc, je le reprécise et je le précise fermement, ce que j'ai dit également aux Parisiens, c'est un problème qui est interne à mon employeur et moi, qui ne remet pas en cause la légitimité et toute la plénitude de mon mandat de maire. Sur la partie professionnelle, c'est quelque chose que je vois avec le président Toulmé, et qui est réglé à ce jour, donc il n'y a pas de problématique à ce jour. Et comme je l'ai dit, un certain nombre de petits malins qui sont autour de la table aujourd'hui se sont engouffrés dans la brèche, ont fait des amalgames qui sont absolument détestables, qui ont attaqué la personne en tant que telle, et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est le domaine judiciaire qui va les traiter. Ça ne sera pas le conseil municipal ce soir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ma capacité à être maire. Il n'y a pas d'incompétence par rapport à mon job aujourd'hui. Et le premier concerné, c'est mon employeur. Le deuxième concerné, c'est moi. Et ce n'est pas cette assemblée aujourd'hui. Donc, le problème est clair, net et précis. J'attaquerai toute personne qui se permettra effectivement de s'immiscer entre le professionnel que je suis et mon président. J'attaquerai toute personne qui remettra effectivement en cause et qui diffamera, parce qu'il y a des amalgames absolument incroyables qui ont été passés sur les réseaux sociaux, et comme par hasard, pour reprendre une expression de Chirac, ça fait pchit. D'accord ? Donc, je considère que cette problématique est close, je m'en suis expliqué avec la presse, et maintenant, c'est mon avocat, Maître Koubi, qui est un spécialiste du droit à l'image, de la diffamation et de la calomnie, qui va s'occuper de ce dossier-là. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus, et je pense qu'effectivement, j'ai clarifié ma position suffisamment sur les réseaux sociaux et ici, pour que le problème soit clos. Monsieur Cadal, alors je souhaiterais qu'on n'y fasse pas non plus la totalité du conseil municipal. Hein.
Je n'ai qu'une question, une précision, est-ce que vous êtes en arrêt maladie ou non ?
Je suis en arrêt maladie, effectivement. Et je suis en arrêt maladie depuis fin juin, et non pas, comme il a été répété, parce que forcément, comme d'habitude, on raconte et on répertorie n'importe quoi, et pas depuis le 1er juin. Et de toute manière, ça concerne, je dirais, mon employeur et moi-même, ça ne concerne pas la mairie, le débat est clos, et je ne répondrai à aucune autre question, si ce n'est en justice. Bien, non. Madame.
Si néanmoins, je veux quand même dire un mot. Moi, ce qui me gêne le plus, contrairement à M. Carré, c'est que je pense que vous auriez eu moins de problèmes à faire un choix entre la fonction d'édile, de première édile...
Je pense que c'est très difficile
de faire les deux, que la ville de Bussy mérite un maire à plein temps, et que de vouloir essayer de faire les deux, je comprends que ce soit fatigant et difficile.
Madame, ça ne vous regarde absolument pas, c'est un choix de vie que je fais. Point à la ligne. Non mais Madame Brunel, vous pouvez hausser les épaules, j'en ai rien à faire. C'est un choix de vie qui me concerne et qui ne concerne que moi-même. Aujourd'hui, il n'y a pas de défaillance dans ma vie professionnelle, il n'y a pas de défaillance dans ma vie politique. Point. Et je n'accepterai pas que qui que ce soit, extérieur, mais Madame Brunel compris, hein, qui que ce soit, je dirais, puisse s'immiscer dans cela. Le problème est clos. J'ai répondu à la question. Vous avez les éléments également sur les réseaux sociaux. Nous allons pouvoir passer à l'heure du jour de ce conseil municipal. Bon, mais méfiez-vous, hein, quand même. Je vais terminer là-dessus. Que tout dérapage, toute circonstance, effectivement, qui sera hors cadre sera réglée en justice. J'insiste, effectivement, sur ce fait-là. Et quand je vois ce qui se diffuse sur les réseaux sociaux et qui est totalement diffamatoire, croyez-moi, ça restera pas sans conséquence. Alors, l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2017. Non mais Madame Brunel.
Non mais excusez-moi, la parole est quand même libre.
Non mais la parole est libre et sur les sujets qui concernent le conseil municipal. Point.
Bah, oui, je crois que.
D'accord.
C'est...
Non mais.
Mais vous communiquez
non.
beaucoup.
Vous n'avez pas la parole,
Madame Brunel.
Madame
Brunel.
Vous n'avez pas la parole.
Vous n'avez pas la parole. Le problème est clos et je ne veux pas. Parce que c'est normal, c'est le jeu de l'opposition, on essaie d'exister, je dirais, là-dessus. Et quand on n'a que ça, franchement, à se mettre sous la dent, c'est quand même pitoyable. Donc, hors du jour du conseil municipal, et franchement, je veux dire, l'image que vous donnez à nos jeunes élus est vraiment pitoyable. Séance du 28 septembre 2017, y a-t-il des modifications, des demandes par rapport à cet ordre du jour? Non. Abstention, contre, adopté. Séance du 13 octobre 2017, y a-t-il des demandes? Contre, abstention, adopté. Alors nous allons pouvoir rentrer à l'ordre du jour de ce conseil municipal avec toute une partie financière et notamment l'autorisation du maire à engager, liquider, mandater les dépenses en investissement par anticipation au vote du budget primitif 2018. Monsieur Boutillier.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, délibération habituelle en fin d'année où nous devons passer un quart des crédits que le maire puisse engager en avance sur le budget 2018. Donc vous avez le détail, je pense, sous les yeux. En termes d'immobilisation, enfin d'investissement, au chapitre 20, immobilisation, nous allons donc pouvoir engager 446 963 euros. En 204, subvention d'équipement, 10 000 euros. Le 21, immobilisation corporelle, 770 233 euros. Et le 23, 2 883 764 euros.
Donc c'est une délibération habituelle hein, qui nous permet de fonctionner sur les premiers mois avant le vote du budget. Y a-t-il des questions? Monsieur Canal.
Oui, nous avons été étonnés que la même disposition ne soit pas prise concernant le budget de fonctionnement.
Parce que dans le budget de fonctionnement, il n'y a pas besoin de délibération. On peut... Si, bien sûr que si. Donc nous pouvons fonctionner directement sur la partie fonctionnement, sans délibération et sans plafond. Alors que sur le budget d'investissement, nous devons effectivement avoir respecté un plafonnement de dépenses. Y a-t-il d'autres questions? C'est marrant, c'est moins compliqué que la polémique. Alors, article 1, autorisé jusqu'à l'adoption du budget primitif 2018, le maire a engagé, liquidé et mandaté les dépenses et investissements, en investissement, pardon, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Contre. Abstention. Merci beaucoup. Alors, délibération numéro 2, avance sur subvention de CCAS avant le vote du budget primitif 2018. Monsieur Boutillier.
Même principe, hein, concernant la subvention au CCAS pour leur permettre de fonctionner en ce début d'année. Donc, leur accorder un quart, 40% pardon, à ce qu'on a donné sur le budget 2017, soit 254 886 euros.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Classique aussi, je dirais en début d'année civile. Contre, abstention. Merci beaucoup. Même chose pour la Caisse des dépôts.
La Caisse des écoles. Bon, concernant la Caisse des écoles, même principe puisque c'est une subvention, donc c'est limité à 40% du BP 2017, soit 142 672 euros.
Des questions? Abstention? Contre? Merci beaucoup. La dépôt à finance, constatation d'extinction des créances. Oui, pardon.
Est-ce que vous avez visité sur le moment où on aura le débat,
mets ton micro.
Le débat d'orientation budgétaire? Est-ce que vous avez visité sur la présentation, la date de présentation du débat d'orientation budgétaire?
Non, pas encore. Là, pour l'instant, effectivement, on n'est pas encore là. De toute manière, on fera, et vous recevrez effectivement le planning de l'ensemble des conseils pour le premier semestre 2018, ce qu'on est en train de caler là. Donc, vous aurez effectivement cette explication là dans les jours futurs. Monsieur Canard.
Parce qu'on parle de budget, c'est quand même un peu surpris qu'il n'y ait eu aucune modification du budget initial depuis son adoption au mois d'avril, dans un contexte où chacun sait que l'équilibre des finances publiques est de plus en plus difficile à réaliser, notamment pour des difficultés de recettes, dont on parle beaucoup aujourd'hui même, mais jusqu'à jeudi. Nous n'avons aucune information particulière sur le degré d'engagement de France où nous sommes par rapport à ce projet, en dépit donc de ces incertitudes. C'est assez surprenant, je dois dire. Donc, si on était dans un environnement fiable et stable, ça ne porterait pas de commentaires particuliers, mais dans cet état-là, je suis un peu surpris qu'on n'ait aucune nouvelle, pas de son, pas d'image.
Ah oui.
On est un petit peu comme le marin, le sous-marin
argentin.
Mon sous-marin argentin, nous avons retrouvé notre sous-marin, mais c'est effectivement les incertitudes, donc procéder plutôt sur l'exercice 2017, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que les compensations, la disparition de la taxe d'habitation ne va pas être effective pour l'année 2017, et qu'on a été suffisamment bon dans l'exercice 2017 pour ne pas avoir besoin de DM sur l'année 2017. Donc on peut que se féliciter de gérer d'abord ce dispositif-là. Donc, aujourd'hui, comme dans les années précédentes, l'exécution du budget 2017, vous l'aurez avec le réalisé dans le cadre du compte administratif que nous voterons en temps et en heure. En temps et en heure, c'est pas la peine de sourire. Le moment venu. Donc aujourd'hui, les incertitudes que vous évoquez, Monsieur Canal, c'est pas la peine de sourire, ne concernent que les années à venir et ne concerne pas l'année 2017. La seule certitude que nous avions, mais on l'avait déjà prévu depuis très longtemps, c'est en 2017, et on l'a déjà exprimé au moment du vote du budget, c'est la disparition totale de la DGF pour Bussy-Saint-Georges, puisque nous sommes maintenant contributeurs à hauteur de 250 000 euros du budget. Les autres incertitudes ont déjà été largement intégrées dans le budget 2017. Sur le budget 2018, l'incertitude reste effectivement encore à traiter, mais nous avons encore le temps de le voir, et on attend les dernières explications du président et du premier ministre dans le cadre du congrès des maires sur les mécanismes de compensation réels de la taxe d'habitation, notamment sur un tiers de sa disparition dès 2018. Donc, sur 2017, les incertitudes ont déjà été traitées, incorporées, connues dans le cadre du vote de l'exercice 2017. Point.
Non, je souris simplement pour une raison, parce que c'est vous qui me faites sourire, parce qu'en me répondant qu'on attendra le compte administratif pour pouvoir en juger, ça nous projette dans 7 mois d'ici.
Eh oui, mais c'est pas moi qui fais la loi.
Vous avez fait voter le compte administratif en juin, c'est-à-dire au dernier moment, 3 jours avant la date limite. Donc c'est bien ce que je disais, il y a quand même une source d'inquiétude sui generis, du fait de ne pas avoir pendant un an ni de son ni d'image d'une situation qui est quand même dans un environnement un peu chahutant.
Non mais quand tout va bien sur le budget, effectivement, j'ai pas besoin de m'exprimer sur ce genre de choses. Je m'exprime déjà sur les choses qui vont pas, donc je vais pas en plus passer mon temps à m'exprimer sur les choses qui vont bien. Donc ça fonctionne bien. On a en plus une étude financière qui a été programmée par Epamarne, notamment sur le cadre de la programmation scolaire. Et ça, je vais revenir dessus parce que là, on nous balance un certain nombre de choses, mais je pense que là, il va y avoir des responsabilités politiques des uns et des autres à prendre sur ce dossier-là, et notamment sur l'absence d'anticipation totale sur le dossier. Et donc, aujourd'hui, le cabinet de finances publiques mandaté par Epamarne nous donne un satisfecit sur la gestion budgétaire, et notamment sur 2017, et qui est sans commune mesure, effectivement, à ce qu'on a pu avoir sur les 10 dernières années. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur des choses qui vont bien. On a une exécution budgétaire qui est conforme à ce qui a été voté. Nous avons une exécution en dépenses et en recettes qui est conforme à ce qui a été voté. Donc voilà, donc je dirais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les inquiétudes, effectivement, elles sont aujourd'hui pour l'ensemble des collectivités sur l'année 2018. Et là, on a des incertitudes qui, aujourd'hui, sont de nature à aujourd'hui à nous poser des questions sur un certain nombre de pérennités, que ce soit philosophique ou que ce soit juridique ou que ce soit, je dirais, financier. La perte que nous aurions, effectivement, entre le contribuable et l'ordonnateur est pour moi quelque chose de catastrophique. Parce qu'effectivement, l'impôt, et surtout à Bussy-Saint-Georges, on le sait que ça a été toujours un dossier sensible, et quand même, je dirais, le rapport qu'on a au contribuable et avec l'habitant, qui est un lien intime entre la collectivité et ses habitants. Si on perd ce lien-là, et ça c'est une position effectivement que j'ai depuis le départ, on va avoir, nous, des problématiques effectivement pour faire passer nos politiques. Le fait d'avoir l'État comme premier contributeur de financement, je dirais, des collectivités territoriales, ça pose un vrai problème d'indépendance. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des recours qui se font au niveau du Conseil constitutionnel, parce qu'il y a bien quelque chose qui est inscrit dans la Constitution française, c'est l'autonomie financière des collectivités. Et aujourd'hui, à partir de ce moment-là, si on accepte le principe de la perte d'autonomie, eh bien à ce moment-là, effectivement, on sera sous perfusion de l'État et nous n'aurons plus le choix de nos politiques. Donc ça, c'est un sujet majeur que nous aurons à traiter en 2018 quand on aura une vision pour traiter les conséquences. Madame Brunel.
Oui, non, juste une remarque sur le Conseil constitutionnel. Effectivement, il semble qu'on risque de s'orienter vers une exonération totale de la taxe d'habitation de tous les habitants.
Absolument.
C'est le fond du sujet. Et effectivement, le lien fiscal, là je partage votre analyse, est tout à fait important entre des élus et des habitants.
Mais moi je préférerais avoir un mécanisme d'exonération totale la première année, qu'on soit clair effectivement sur le dispositif, plutôt que d'avoir un mécanisme d'un tiers. Quand on voit ce qui est sorti sur nos analyses à nous, notamment sur le revenu fiscal par habitant, sur le potentiel fiscal de Bussy, et les principes d'exonération, on est à entre 70 et 80% de la population de Bussy exonérée. Quand on voit le rapport du Sénat qui a été produit il y a peu de temps, qui à mon avis est très optimiste, c'est 64 ou 65% d'exonération de ménages exonérés de la taxe d'habitation. Quand on décide derrière qu'on est opération d'intérêt national, que demain ou après-demain, il y aura la relance de l'urbanisation, ça veut dire que quel est le mécanisme pour les villes nouvelles qui vont avoir des habitants supplémentaires et donc des dépenses supplémentaires par rapport au taux d'exonération. On le sait sur les attributions de compensation, ça n'a jamais été, je dirais, réalisé à l'euro près. On le sait depuis 82. La totalité des mouvements de décentralisation n'ont jamais été compensés à l'euro près, ou alors simplement la première année. Donc, notre inquiétude, elle est plutôt sur l'avenir que sur la réalisation du budget 2017.
Oui, juste une remarque. Est-ce que vos services et vous-même, vous êtes d'accord avec les chiffres qu'a sorti le Parisien sur le montant? C'est une question juste d'information à la louche. Est-ce qu'ils sont trompés? Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres qui ont été sortis il y a deux jours par le Parisien?
Je pense que nous, on a un écart sur ce qu'on a calculé, nous, en termes de foyers exonérés par rapport, effectivement, à ce qui a été proposé par le Parisien. C'est ce que je viens de dire. On est à 64% et nous, on est beaucoup plus haut puisque le revenu fiscal par habitant est passé en dessous des 20 000 euros. Donc clairement, effectivement, on a cette portion de population effectivement massive qui sera exonérée de la taxe d'habitation. Et donc, on se retrouve effectivement sur quelque chose pour nous de foncièrement compliqué. Donc construire des budgets sur des incertitudes, c'est ce qu'il y a de pire. Mais on le fera. Alors, point 4, constatation d'extinction de créances. Monsieur Boutillier.
Bien, nous avons reçu de la part de la trésorerie des demandes à vous soumettre concernant l'extinction de certaines dettes, des créances dont le recouvrement n'a pas pu être effectué malgré les actions menées par la trésorière, et des créances éteintes dues à des jugements ordonnés que nous sommes dans l'obligation d'exécuter. Donc vous avez le détail de l'ensemble de ces non-valeurs que nous devons admettre, qui s'élève à 40 382,10 euros, et ce sont principalement des impayés de cantine et d'études sur les années de 2007 à 2017. Alors je vais rassurer M. Canal, ceci avait été provisionné, puisque nous avions vu ça avec Mme la Trésorière en début d'année avant de présenter le budget, pour provisionner la somme qui serait approximativement présentée en fin d'année.
Absolument. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Contre, abstention. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer sur la partie technique, avec un certain nombre de délibérations à prendre, et notamment la première qui concerne, je dirais, un rapport un peu tripartite entre le SDESM, la ville et Marne-et-Gondoire, notamment sur la reprise d'un certain nombre de points lumineux sur le boulevard de Lagny, non pas sur la voirie, mais sur la partie contre-allée de ce boulevard de Lagny. Donc il y a une somme de travaux hors taxe à 29 460 euros, avec une participation du SDESM qui correspond à notre contribution à 1178 euros. Et donc nous allons provoquer une convention avec le SDESM, notamment pour la réalisation des travaux, et avec Marne-et-Gondoire, notamment sur la partie financement. Donc c'est les deux délibérations qui vous sont proposées aujourd'hui. Vous savez que Marne-et-Gondoire a une compétence notamment sur ce qu'on appelle la trame verte, et que les contre-allées Debussy-Saint-Georges notamment sur cette partie-là du boulevard de Lagny sont intégrés en compétence de Marne-et-Gondoire. Donc c'est eux qui vont prendre en charge les travaux. On fait une maîtrise d'œuvre unique, notamment pour que ce soit la mairie qui puisse être en contact avec le SDESM, et ensuite Marne-et-Gondoire paiera au SDESM le montant des travaux. Madame Bonnel.
Oui, juste une question quand même d'information et de compréhension. Oui. Dans la convention financière que vous avez joint,
oui,
il est marqué en page 2, mais il y a peut-être une erreur, total à la charge de la commune, 35 352 euros,
oui,
total à verser par la commune, 1178,40 €, oui, mais il est écrit nulle part que c'est Marne-et-Gondoire qui finance.
C'est dans la délibération d'après. Dans la convention, effectivement, que nous passons avec...
Bah, attendez,
donc nous avons une convention... Nous
ah
avons,
oui, d'accord.
Donc nous avons ces tripartites. Une convention SDESM, okay, Bussy-Saint-Georges, sur le montant des travaux à réaliser par le SDESM. Et ensuite, nous avons une convention avec Marne-et-Gondoire, dont c'est la compétence, pour que, juste après, point, le point d'après,
ouais, d'accord, ouais,
le point numéro 6. Et ce point numéro 6 permet la prise en charge par Marne-et-Gondoire de la partie... Travaux, voilà. Donc, considérant la nécessité de réaliser les travaux consistant à remplacer 19 lampadaires pour un montant de 35 000 euros TTC, supporté par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire.
Ok, ouais, mais, ok, d'accord.
Bon, voilà, c'est pour
d'accord,
ça que je parlais des
non,
deux.
Non, mais c'était bien déclaré.
Je parlais des deux délibérations parce qu'elles sont effectivement jointes sur du tripartite. Donc, premier point. Donc, les travaux concernant l'éclairage public. Boulevard de Lagny avec la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le SDESM. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Ensuite, la convention financière de prise en charge par Marne-et-Gondoire. Opposition? Abstention? Merci beaucoup. Alors, nous avons un certain nombre de rapports d'activité concernant nos syndicats intercommunaux et nos PPP. Le premier, effectivement, concerne le contrat de partenariat avec Citelum. Donc, comme tous les ans, effectivement, donc, nous prenons acte du rapport d'activité on ne peut pas l'appeler forcément délégataire, mais du pétitionnaire là-dessus. Donc, cette année, nous avons mis, effectivement, les points principaux de ce rapport pour guider à la lecture souvent ardue de cet élément. Donc, vous avez les différents points sur l'inventaire du patrimoine. Donc, je ne vais pas tout relire. Hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sur le récapitulatif et l'analyse des dysfonctionnements, puisque ça, c'est un phénomène, effectivement, que l'on traite avec Citelum depuis notre arrivée sur les pannes de secteur sur lesquelles on s'est déjà exprimé dans ce conseil municipal. Les opérations de maintenance préventive qui sont réalisées par Citelum, l'inventaire du patrimoine, le récapitulatif des analyses de dysfonctionnement, les opérations de maintenance préventive et surtout, je dirais, le passage au LED, puisque 27% aujourd'hui de l'éclairage public est passé en LED, avec des économies de gestion qui sont quand même non négligeables. Et je voulais juste rappeler ce qu'on a passé au conseil municipal dernier, c'est la négociation que nous avons eue avec Citelum, et donc la baisse sur le restant à courir de la durée du contrat, de près de 500 000 euros d'économie. Hein, sur l'ensemble des loyers. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons des rapports un peu plus harmonieux avec Citelum. Nous avons toujours ces problématiques de panne de secteur que nous sommes en train de traiter, et à chaque fois, nous les mettons en demeure de réaliser les travaux le plus rapidement possible. Ça arrive souvent en pleine nuit, au moment du démarrage de l'éclairage public, avec une intervention au mieux le lendemain matin. Et donc, avec une intervention systématique de Citelum. Donc aujourd'hui, ça fait partie des éléments d'amélioration que nous traitons avec le délégataire. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier rapport? Non? Donc vous pouvez considérer que nous avons pris acte du rapport sur Citelum. Alors, sur le syndicat mixte d'alimentation et d'eau potable de la région de Lagny-sur-Marne, pareil, nous avons fait une petite note vous permettant de vous guider dans la lecture de ce rapport global, notamment sur les caractéristiques de ce contrat de délégation qui n'est pas forcément très connu et donc qui permet d'avoir des éléments très concrets sur les caractéristiques, c'est-à-dire le nombre d'abonnés, 88 545 habitants desservis, 4 millions 4 de mètres cubes consommés, 6 réservoirs, 22 600 branchements et 422 km de réseau d'eau potable. Vous avez également un point sur les recettes liées effectivement à l'exploitation du service de l'eau, notamment pour les moyennes de consommation, hein, notamment 120 mètres cubes par habitant, c'est la moyenne effectivement calculée par l'opérateur, qui a rapporté donc à peu près 9,8 millions de recettes aux délégataires pour des charges atteignant 9,5 millions. Alors c'était une question qui avait été posée au dernier conseil municipal, notamment sur la qualité de l'eau. Et par rapport à l'information qui avait pu être diffusée, je ne sais plus par quel média, là-dessus. Donc on a redemandé au syndicat d'eau potable, effectivement, qui nous a confirmé la conformité, hein, je dirais, de la qualité de l'eau et de la distribution de l'eau. Donc il n'y a pas de problématique à la source et il n'y a pas de problématique arrivée effectivement chez le consommateur. Donc ça nous a été confirmé par le syndicat mixte lui-même. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la qualité de l'eau ou sur une potentielle non confirmée pollution de cette eau-là aujourd'hui sur l'ensemble de nos réseaux. Et on a des travaux qui ont été effectués, notamment sur le réservoir à Bussy-Saint-Georges en 2016. Hein, vous avez pu voir, notamment sur des travaux liés à la mise en sécurité du site. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Très bien, donc on peut considérer qu'il est adopté en l'état. Alors, justement le SDES, on en parlait tout à l'heure sur nos travaux d'électrification et d'éclairage public. Donc pareil, vous avez une note récapitulative, je dirais, des objectifs du syndicat pour ceux qui ne le connaissent pas, et l'intervention sur l'ensemble des points lumineux de la collectivité, l'enfouissement des réseaux, les services énergie et le système d'information géographique, le SIG, qui a été mis en place par notre opérateur. Donc, sur les travaux réalisés à Bussy-Saint-Georges en 2018, on vient de le voir, c'est les 19 candélabres du boulevard de Lagny, notamment sur la contre-allée. Souriez, vous êtes filmé. Y a-t-il des questions sur ce rapport du SDESM? Faites un petit coucou en passant. Non, on peut considérer le rapport adopté. Le CITREM, pareil, effectivement. Sur l'ensemble des communes qui sont concernées par le CITREM, sur l'ensemble des tonnages, ça c'est un aspect intéressant, et l'évolution notamment sur 2016 et 2017, sur la collecte de 2016, vous voyez effectivement des variations à la hausse dans quasiment dans tous les domaines, sauf dans la collecte du verre et les ratios que nous pouvons avoir par habitant. Les problématiques de conteneurisation, c'est la première fois que nous avons un tel taux, mais à l'échelle de la couverture du CITREM et non pas à l'échelle de Bussy-Saint-Georges, sur des vols de conteneurs ou sur des dégradations de conteneurs. Donc ça, c'est des éléments, effectivement, qui à terme seront réintégrés dans les budgets. Le traitement avec notamment la mise en place de la prestation de valorisation énergétique par l'usine d'incinération qui est dirigée par Suez. Moi, je suis allé la visiter avec quelques élus il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez le voir, c'est absolument un équipement extraordinaire et qui est mis aux normes, je dirais, par rapport à des normes qui vont arriver dans quelques temps et qui arrive à produire aujourd'hui et à valoriser l'énergie, notamment avec une réflexion avec les collectivités pour pouvoir récupérer la chaleur émise par l'usine d'incinération pour du chauffage urbain. Donc il y a un certain nombre de communes de Marne-et-Gondoire qui sont candidates à pouvoir effectivement travailler sur ce dispositif. Sur le CITREM, nous l'avons déjà évoqué à divers conseils municipaux, je l'ai évoqué également à divers conseils communautaires. Le problème de collecte qui se pose dans quasiment toutes les collectivités, je pense, est en voie de règlement, sauf pour les encombrants. Là, je pense qu'effectivement, tous ceux qui habitent à Bussy-Saint-Georges aujourd'hui peuvent constater que sur les encombrants, on a encore un certain nombre d'adresses qui ne sont non traitées et que ça pose un énorme problème, je dirais, sur la ville, notamment sur ces points non traités. Le CITREM, via la CEPUR, a pris l'engagement de pouvoir traiter l'ensemble des collectivités territoriales concernées. C'est à peu près la moitié des villes qui sont concernées par un problème de ramassage qui ne se fait pas sur une journée, mais quasiment jusqu'au dimanche. donc du vendredi au dimanche, et avec des problématiques, notamment sur nos collectivités, de sortie des encombrants, où là on a des incivilités aussi qui sont actées, et de sortie plus généralement des conteneurs. Comme on a une collecte le lundi matin, on a des conteneurs qui sont sortis, notamment chez les bailleurs, chez les particuliers et chez les entreprises, depuis le vendredi soir. Donc actuellement, après une phase de communication dessus, on est passé à l'autre phase, effectivement, à cette fois-ci de sanctions, parce que on a un vrai souci là-dessus. Donc on est en train de traiter avec le CITREM, non pas, comme je pouvais penser pouvoir le faire, un changement de date de la collecte, c'est-à-dire en le déplaçant sur le mardi, mais comme c'est un certain nombre de communes qui sont concernées en même temps, serait de décaler la collecte, non pas le lundi matin, mais le lundi en fin de journée. Ce qui permettrait effectivement de sortir les conteneurs le lundi matin et non pas le vendredi soir. Voilà, donc ce sont des discussions que l'on a aujourd'hui avec les services municipaux et les services du CITREM pour trouver une solution à ce problème-là. De l'autre côté, et bien sûr c'est pas dans le rapport du CITREM, nous avons un certain nombre de tonnages ramassés par les services municipaux, c'est près de 600 tonnes de déchets ramassés aujourd'hui par les services de la collectivité, donc qui viennent se rajouter au tonnage récupéré sur Bussy-Saint-Georges aujourd'hui. Donc c'est un vrai souci, et je sais que les enfants du conseil municipal avaient des idées, hein, notamment sur la propreté en général et sur le tri sélectif en particulier. Donc on va revenir avec eux, avec des propositions qu'on va travailler là d'ici la fin de l'année, pour pouvoir revenir auprès de ce conseil et faire, je dirais, des propositions d'amélioration sur la ville de Bussy-Saint-Georges. Donc je les remercie parce qu'effectivement, ils ont été extraordinaires d'idées, hein, je dirais, là-dessus. Donc on va faire des opérations en commun avec eux, d'opérations coup de poing sur cette partie-là. Oui. Alors, est-ce qu'on vous libère, les enfants? Non. On va s'adresser aux parents. Est-ce qu'on reste encore un peu ensemble? Il n'y a pas de souci. Vous ennuyez, là? Non. Bien. Voilà, absolument. Alors, sur ce rapport d'activité du CITREM, y a-t-il des questions? Donc on peut considérer effectivement qu'il est acté en l'état. Alors, périscolaire. Ça y est, je vois les têtes qui se lèvent. Modification du règlement intérieur de l'étude surveillée, Madame Brigitte Géraud-Tirotte.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous apportons une modification au règlement intérieur de l'étude. Il y a eu en séance du 17 mai dernier une adoption d'un règlement intérieur pour une mise en application au 1er septembre. Après quelques mois d'application, nous avons apporté des améliorations et on a été amené à également apporter des précisions. En particulier, sur le règlement intérieur de l'étude, on a précisé le délai de 10 jours pour deux points. Le premier, lorsqu'une famille souhaite inscrire leur enfant à l'étude, on demande que ce soit fait 10 jours avant la fin du mois, sachant que l'étude démarre systématiquement au premier de chaque mois. De la même manière, lorsqu'il s'agit de désinscrire un enfant de l'étude, c'est 10 jours avant le début du mois suivant. Et la deuxième chose, c'est que le service scolaire a travaillé pour simplifier la vie des familles sur deux formulaires. Un formulaire études surveillées, lorsqu'ils souhaitent modifier leur inscription en cours d'année. Et puis d'autre part, un formulaire recours, là qui marche non seulement sur l'étude, mais sur tous les problèmes qui peuvent se présenter, qui est plus simple à remplir, plus simple en suivi, et qui nous permet de répondre plus rapidement aux parents. Voilà.
Y a-t-il des questions sur cette modification du règlement intérieur de l'étude surveillée? Non? C'est clair?
Si, moi j'ai une question qui fait référence à mes souvenirs encore récents de quand mes enfants étaient concernés. Je pense que du point de vue du parent qui demande à une inscription rapide de son enfant en études surveillées, ça peut correspondre à quelque chose qui est très bien anticipé et qui peut effectivement même se savoir à l'avance. Mais on est peut-être aussi dans un autre cas pour certains parents et certaines familles qui brutalement ont un événement qui fait que
ça devient plus possible et effectivement il faut absolument que l'enfant soit inscrit à l'étude surveillée. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible d'avoir un délai raccourci exceptionnel pour répondre à une problématique qui est jamais agréable dans la famille?
Oui, je comprends. Il y a un règlement qui concerne l'ensemble des parents, mais chaque cas particulier peut être traité de manière tout à fait ad hoc.
Le principe, c'est de fixer une règle, justement, pour ne pas... Parce qu'on a eu cette discussion avec les directeurs d'école dans une réunion qui s'est passée la semaine dernière, justement, sur les inscriptions à l'étude et la non-présence des enfants à l'étude. Donc, on a souvent un taux différentiel de près de 25% entre les inscriptions et la présence effective des enfants. Voilà, donc c'est ce gap-là qu'on essaie effectivement de contrôler. Et bien évidemment, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Y a-t-il d'autres questions ? Contre, abstention, merci beaucoup. Modification du règlement de calcul du quotient familial. Brigitte Giroud-Tirode.
Alors, il s'agit du règlement intérieur du quotient familial, et non pas du calcul du quotient familial, mais du règlement intérieur. Vous avez eu une note qui explique exactement tout ce qui a été apporté comme évolution dans ce règlement. Cela résulte de l'évolution que nous avons constatée depuis plusieurs années sur la cellule familiale. Aujourd'hui, on a des gardes alternées, des parents divorcés, des gens qui déménagent en cours d'année. Donc, on a souhaité apporter des précisions et afin d'être plus en phase avec la vie d'aujourd'hui.
Ça, c'était une demande forte qui nous avait été présentée et sur laquelle on répond aujourd'hui par ces quelques modifications, en fait, plutôt des rajouts de situations familiales, de précisions pour éviter effectivement toute interprétation négative de ce texte.
Voilà.
Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Donc voilà. Contre, abstention, adopté. Modification du règlement intérieur des activités péri- et extrascolaires. Madame Brigitte Giroud-Tirode.
Oui, donc les activités péri- et extrascolaires donc, ont été modifiées en mars 2017 afin de l'adapter aux nouvelles procédures d'inscription qui étaient applicables à partir du 1er avril 2017. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le règlement intérieur qui existait, finalement il y avait un règlement intérieur mais qui n'était pas appliqué et on a apporté des précisions et on l'applique depuis le 1er avril 2017. On s'est aperçu donc avec plusieurs mois d'usage que les demandes des familles sont importantes, elles reviennent souvent au service scolaire pour soit obtenir des dérogations à tel ou tel point, soit par manque de compréhension. Donc, on a apporté des précisions à ce règlement antérieur. Vous avez donc dans la note l'ensemble des modifications qui étaient apportées dans ce règlement. Il y a une correction d'une erreur de frappe concernant le nombre d'adultes par enfant lors de la pause méridienne pour les maternelles, qui sont 1 sur 14 et non 1 sur 10, comme c'était écrit. Vous avez donc différents points et... L'objectif étant d'apporter des réponses et des précisions aux parents sur ce règlement.
Madame Brunel.
Oui, une remarque quand même qui m'étonne un peu. Vous mettez précision, alors j'ai regardé bien sûr la pochette, précision sur la facturation en cas de retard des parents à 17h30, la fréquentation réelle sera facturée, grand soir ou étude plus post-étude, plus la pénalité de non-prévision de 10 euros.
Oui.
Et cette pénalité de non-prévision... la famille sera automatiquement facturée, une pénalité de non-prévision sera par ailleurs appliquée. J'ai le sentiment que c'est particulièrement sévère et particulièrement dur.
Alors,
donc, oui, est-ce que vous pouvez, parce que quand on lit, on a l'impression que une fois, on n'est pas là à 17h30 ou à 17h35 et toc, pénalité
non.
De 10 euros.
Alors,
la façon dont c'est écrit, ça peut
penser. Il y a toujours un petit délai dans lequel les parents peuvent arriver. Il ne s'agit pas de pénaliser les parents à 31 lorsque ils avaient prévu un départ à 30. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nombre de personnes qui gardent les enfants et on a un taux où qu'il est important de respecter. Donc, notre souhait, ce n'est pas du tout de pénaliser les parents, mais de faire en sorte que c'est... on assure la sécurité des enfants.
Ben c'est vrai, vous mettez pénalité 10 euros.
Oui.
Donc la maman ou le père qui a un problème et qui peut pas arriver le soir pour aller chercher ses enfants, à la rédaction, 10 euros de pénalité.
Oui. Et comment fait-on dans ces cas-là,
ben oui.
Quand on a un animateur qui a prévu effectivement de partir à une heure donnée? Donc, dans tous les cas, il faut des règles. Dans tous les cas, il faut des règles. Alors,
oui.
De toute manière, chaque demande de recours qui est faite donc sur le nouveau formulaire que nous avons mis au point, que les services scolaires a mis au point, les parents peuvent nous poser des. Les parents peuvent nous poser des questions et chaque cas est étudié spécifiquement.
Ouais, ouais, de toute manière, non, mais attendez, on pose aussi un cas général, on s'aperçoit sur un certain nombre de choses, et c'est pas le cas majoritaire, on a, je dirais, une minorité de parents, effectivement, qui confondent souvent l'école et la garderie, on a même des oublis d'enfants.
Oui.
Hein, donc moi je le retrouve effectivement avec des oublis d'enfants, c'est-à-dire des parents qui ne viennent pas rechercher leurs enfants, et c'est pas un détail parce que c'est quand même arrivé plusieurs fois cette année. Le principe, comme la dernière fois effectivement, par exemple, on a des problématiques de RER. Donc quand les parents sont bloqués dans le RER, bien évidemment l'école va pas fermer en mettant les enfants dehors. Donc ça, c'est le genre de force majeure qui n'entraînera pas forcément de pénalisation là-dessus. On n'est pas sur ce cadre-là. J'insiste aussi sur le fait qu'on a les modifications des règlements intérieurs sur les activités extrascolaires ou périscolaires qui sont non obligatoires. On a un volume d'impayés qui est absolument incroyable. On est en train de traiter des cas aujourd'hui de familles qui doivent plus de 4000 euros à la collectivité aujourd'hui sur des prestations qui sont par exemple liées aux études ou à la garderie effectivement. Donc on est vraiment là sur une problématique. Si on commence pas à mettre des règles et à traiter les cas particuliers, on aura effectivement cette dérive-là où certaines familles pensent que le service public est gratuit et à partir de ce moment-là, on a toutes les dérives possibles. Et c'est à peu près, je dirais, 20 à 25% des sommes collectées qui sont aujourd'hui en impayés. Et comme la trésorerie, aujourd'hui, n'est pas en capacité, de l'aveu même de la trésorière, en termes d'effectifs, de suivre la totalité des titres de recettes qui sont émis, eh bien on se retrouve quelques années plus tard à admettre en non-valeur l'ensemble des dettes, entre guillemets, qui sont à la collectivité. Donc on a un problème de vérification, on a un problème d'impayé, et ce que l'on dit aujourd'hui ne concerne qu'une toute minorité, et quand il y a des cas de force majeure, bien évidemment, cette pénalité n'est pas traitée.
Alors,
j'ajouterais
aussi que vous avez certainement dû voir dans les délais pour prévision qu'il y avait une nette amélioration qui permettait aux familles donc d'inscrire leur enfant pour la semaine suivante plus tard que dans le précédent règlement, puisque maintenant, à partir du moment où elles le font sur l'espace famille, elles ont jusqu'au dimanche soir minuit pour inscrire leurs enfants en périscolaire la semaine suivante. De la même manière, lorsqu'il y a des vacances scolaires, si elles utilisent l'espace famille, elles peuvent l'inscrire 10 jours avant. Et pour la restauration, donc ça n'a pas changé, c'est la veille pour le lendemain.
Oui, donc il y a une facilité augmentée. Par contre, c'est vrai que vous évoquiez le fait qu'en fait, c'est les récidivistes, entre guillemets, que vous voulez... pourquoi ne pas le faire en... à partir de 3 retards, enfin, à partir d'un certain nombre de d'occurrences, je dirais.
De toute manière, c'est ce qui va se passer dans la réalité, parce que effectivement, je dirais, toute personne en retard, et on le sait effectivement, quand même beaucoup de familles, beaucoup de parents ne travaillent pas à Vichy-Saint-Georges, mais à l'extérieur, donc c'est le genre de problématique qu'on gère tous les jours. Par contre, effectivement, si on fixe pas une règle, je dirais, pour pouvoir ensuite traiter les récidivistes, il y aura à chaque fois, effectivement, un écart de comportement qu'on ne pourra pas traiter à terme. Donc je préfère effectivement qu'on ait cette règle-là fixée, et ensuite on traitera les cas par cas, comme on l'a fait effectivement sur les autres règlements antérieurs. Sinon, derrière, effectivement, bah, c'est plus de 30% d'impayés, ça sera la moitié, effectivement, des recettes qu'on est censé collecter. Ok ? Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Contre, abstention, vous notez. Adopté.